Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Mais là, c'est au tour de la CSN et de la FTQ de s'inviter dans la campagne électorale. Ces deux grandes centrales syndicales ont décidé de demander aux partis politiques de se prononcer sur la création d'une véritable assurance médicaments publique universelle pour tous les Québécois. Là, vous allez me dire, hein, comment ça? On a une assurance médicaments au Québec, là. C'est vrai, si vous avez une assurance collective avec votre employeur, on va vous dire, par exemple, ben, là, prenez votre assurance collective. Il y a des gens qui n'en ont pas, donc ils se rabattent sur l'assurance médicaments du gouvernement du Québec. Mais c'est pas non plus la panacée. Ça paye, je vais faire un chiffron là, pour que ça soit simple, mais autour d'environ 70 % de vos frais médicaments. Mais c'est pas... C'est pas l'idéal pour les gens qui ont des frais importants de médicaments. Il y a une grande partie quand même à payer. Donc, cette idée-là est intéressante. On trouvait qu'il fallait en discuter parce que on se rend compte. La dernière fois, je suis allée à la pharmacie demander un médicament, je me suis rendu compte que mon assurance ne le remboursait pas. Ah. Et mon pharmacien m'a dit, ah ben oui, c'est ça. Ils ont commencé à réduire la liste. On se rend compte, on dirait qu'il y a de moins en moins de médicaments qui semblent être remboursés. Alors, la question que je vais vous poser, chers auditeurs, c'est est-ce que vous êtes satisfait de l'assurance médicaments que vous avez, qu'elle soit publique ou privée? Jacques Létourneau est le président de la CSN. Merci d'être là, M. Létourneau.
Bonjour.
Docteur Christiane Laberge, médecin de famille, est avec nous. Bonjour, Christiane.
Bonjour.
Je vais commencer avec Jacques Létourneau parce que, bon, CSN, FTQ, ensemble dans cette campagne qui revendique donc une vraie assurance médicaments. Vous n'êtes pas content de ce qu'il y a en ce moment, Jacques Létourneau?
On n'est pas satisfait et non seulement on n'est pas satisfait, mais c'est une campagne électorale qui tourne beaucoup autour de la classe moyenne, des familles. On trouve que jusqu'à maintenant, on a annoncé des mesurettes. Là. Je ne sais pas si ça se dit, je pense pas, mais en tout cas, vous comprenez bien de quoi je parle. Nous, on dit sérieusement, si on veut améliorer le sort de la population en général, il faut qu'on aille de l'avant avec cette idée-là, qui n'est pas nouvelle en passant, parce que l'Union des consommateurs du Québec porte ce dossier-là depuis à peu près une vingtaine d'années. Et en 1997, quand on a instauré le régime d'assurance médicaments, là, c'était à l'époque de Jean Rochon, si ma mémoire est bonne, puis c'est M. Castonguay qui le proposait. Il était question d'un régime universel, public et même gratuit. Et finalement, on a décidé d'y aller avec un régime hybride où il y a cohabitation entre le régime privé, comme vous venez de le dire, en entreprise, quand vous êtes syndiqué ou pas, mais quand il y a un régime d'employeur, vous êtes couvert. Et là, à l'époque, on a permis à 1 500 000 personnes qui n'avaient pas du tout de régime d'avoir une couverture minimale avec un certain quand même minimum de contribution. Et on se rend compte aujourd'hui que quand on pose la question de l'accès, quand on pose la question de l'équité en termes de couverture et de contrôle surtout des prix, on est perdant. Pour résumer simplement, nous on dit, quand vous allez chez le docteur, ça ne vous coûte rien, hein? En principe, là. Quand
vous allez. Officiellement, disons, non, qu'on
mais,
sent pas
mais
le cash de
vous avez droit à un médecin gratuitement. On vous charge. Bon. Ouais. Quand vous allez à l'hôpital, ça vous coûte rien non plus. Bon. Même, j'avais quelqu'un ce matin à la CSN, un travailleur qui me disait, j'ai eu un problème d'amygdalite récemment, j'étais à l'hôpital, ils m'ont offert de rester plus longtemps pour que mes médicaments soient couverts. Parce que quand vous êtes à l'hôpital, les médicaments sont gratuits.
C'est vrai.
Quand vous mettez le pied à l'extérieur, le médicament n'est pas gratuit. Et là, ça dépend. C'est pas de régime en entreprise. Ça va être votre régime d'assurance publique qui va couvrir. Puis si vous en avez un en entreprise. Et là, il y a une fluctuation dans la couverture. Alors nous, on dit, sérieusement, on souhaite que les partis politiques aillent de l'avant avec cette idée-là. C'est vrai que ça se réalisera pas en 24 ou en 48 heures. Oubliez pas, là-dedans, il y a les compagnies pharmaceutiques, il y a les compagnies d'assurance, il y a les pharmacies. Il y a bien du monde dans cette histoire-là. Puis il y a des pressions puis des lobbies qui se font. Mais on se dit que c'est une mesure qui aura un impact direct sur le portefeuille des citoyens, des citoyennes.
Et qui coûterait combien,
notre objectif, c'est que ça coûte pas plus cher. C'est-à-dire que c'est de rapatrier ce que les patrons payent déjà, c'est de rapatrier ce que les travailleurs en entreprise payent déjà, puis c'est de dire, on fait une mutuelle collective dans laquelle il y a un financement, c'est sûr, mais l'objectif, c'est pas de faire augmenter les coûts, au contraire, c'est de les réduire. Il y a des études qui disent qu'au Québec, on sauverait entre 1 et 3 milliards par année. Alors, c'est quand même pas inintéressant, tant pour l'État que pour les contribuables. Juste vous donner un dernier exemple. Dans les régimes privés, là, on s'aperçoit à peu près depuis une quinzaine d'années, les coûts explosent à 7, 8, 9 % par année, alors que vos salaires, là, ils suivent pas l'augmentation du coût des médicaments, au contraire. On avait des travailleurs dans la construction récemment qui nous disaient, À la retraite, le gars, il fait à peu près 20 000 par année. Ça lui coûte presque 2 000 par année pour être couvert par son régime d'entreprise.
Je vais demander au docteur Laberge de me donner son opinion là-dessus. Christiane, quand on écoute ça, bon, évidemment, on se dit, c'est sûr que le régime actuel d'assurance médicaments, il n'est pas parfait, mais il a quand même permis 20 ans plus tard, je regardais les chiffres là, l'année dernière, on disait qu'il y avait à peu près 45 % de la population qui était couverte par le régime public. Est-ce qu'on peut dire qu'il fonctionne malgré tout, ce système public d'assurance médicaments, Dr Laberge?
Bien, ça fonctionne, mais on sait effectivement que d'année en année, la couverture diminue dans un certain sens. C'est-à-dire que les médicaments, par exemple, comme ton calcium et vitamine D, moi, les gens, quand ils me disent « Bien, prescris-moi là, c'est l'assurance qui paye. » Non, non, c'est toi qui paies ton assurance. Donc, si tu le prends chez Costco, par exemple, ou dans une quand il est en solde, bien, à l'année, ça va te coûter moins cher que de payer ta co-assurance, les frais du pharmacien, etc. Ou les gens qui demandent quand ils ont des assurances privées, bien là, mets-moi un massage une fois par mois. OK. Ton massage, il te rend confortable combien de temps? Bien, jusqu'au lendemain matin. Non, c'est pas thérapeutique, c'est esthétique, c'est confort. Non. Donc, je passe pour une méchante parce que je prescris pas ça. Mais plus il y a de gens qui prescrivent ça, plus ça coûte cher, plus tes assurances montent. Alors, quand la couverture est très grande, par contre, effectivement, quand tu as besoin d'une chimiothérapie puis des médicaments qui sont très chers pour, par exemple, pour l'arthrite rhumatoïde, tu as des médicaments qui vont coûter 30, 40 000 par année. Ben là, tu as ta co-assurance jusqu'à un montant X, puis après ça, le gouvernement le paie. L'autre chose qu'on a actuellement, c'est que les compagnies d'assurance ne devraient pas refuser un médicament qui serait payé par les exceptions, les mesures d'exception, reconnues par la RAMQ. Or, il y a des assureurs actuellement qui offrent moins, avec lesquels on doit se battre pour que les patients aient accès, parce qu'ils n'acceptent plus les mêmes exceptions. Et si des fois, on dit, bon, on va demander une exception pour ce patient-là à la RAMQ, on va prouver que la RAMQ l'accepterait, puis on va le présenter à l'assureur privé. On ne peut pas faire ça, parce qu'ils nous disent tout de suite, ben, le patient est assuré par une assurance privée. Donc, est-ce que le contrôle des coûts serait meilleur si on avait les génériques à 25 % du prix de base au départ, parce que c'est une copie? On pourrait-tu négocier ça à la baisse? Moi, je pense que oui. Mais non, on a négocié plus cher que ça. Et déjà là, on ira récupérer beaucoup de sous. Alors, est-ce que d'avoir un système compétitif, mais qui ne couvre pas les mêmes affaires, est avantageux, ou d'avoir un système unique où ils ont la liberté de nous augmenter ad vitam aeternam amen? Pas sûr que quand on donne ça tout le temps au même, qu'on a un monopole, qu'on va avoir une protection anti-augmentation et préservation des mêmes produits.
Tout à fait. Moi, j'abonde dans le sens du Dr Laberge, Jacques Létourneau de la CSN, parce que les grosses bébites, les grosses bêtes administratives qui ont le monopole au Québec, on est bon là-dedans, mais ils n'ont pas démontré que ça nous coûtait moins cher en bout de ligne. Je pense aux CPE, par exemple, aujourd'hui, qui font beaucoup de bien, par ailleurs. Là, on n'est pas dans le bien social, puis dans le... Mais on est vraiment dans le coût, puis on dirait qu'on a... Dès qu'on tombe dans l'administratif, qu'on met ça dans les mains de fonctionnaires ou du système, appelons le système, entre guillemets, ça devient une grosse affaire dont on ne contrôle plus les coûts. Alors, économie de 1 milliard à 3 milliards, pas sûr. Est-ce que vous avez fait des modèles pour...
En tout cas, les faits sont têtus. Et quand on fait du comparable avec des économies comparables, c'est au Canada que ça coûte le plus cher. Et au Québec aussi, quand on se compare à d'autres pays, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais le Canada est le seul pays en Occident, dans l'OCDE, là, qui n'a pas de régime public universel. Donc, il y a cette cohabitation-là. Donc, c'est ici que ça coûte le plus cher.
Tous les autres pays de l'OCDE
ont des régimes publics. C'est dans le continuum de santé, même l'Angleterre, qui est très néolibérale. C'est dans le continuum de santé que les médicaments sont couverts. Et quand on parle du monopole d'État, ben nous, on dit le monopole là, du régime collectif, la mutuelle collective, aura le pouvoir de négocier avec les compagnies pharmaceutiques. Quand vous parlez des fonctionnaires qui vont gérer cette business-là, on s'aperçoit que l'augmentation des coûts dans les régimes privés sont souvent liés aux frais administratifs. et au nombre de renouvellements d'ordonnances des pharmacies. Donc, oui, c'est vrai que...
Là, vous allez négocier avec les pharmaciens?
Bien, le ministère de la Santé négocie actuellement pour le régime public. Il y a un prix des médicaments.
Oui,
mais il y a quand même un prix des médicaments, puis il y a eu des mesures qui ont été prises. Donc, on ne dit pas que le régime sera parfait, mais on pense honnêtement qu'il va être plus équitable, puis il va avoir un effet bénéfique pour la poche des gens.
Parce que, Dr Laberge, depuis, ça fait quoi? Ça fait un an à peu près là, qu'on a des factures détaillées là, dans les pharmacies, puis c'est là que ça nous a beaucoup éclairés comme patients. On regarde ça, puis on se dit, oh mon Dieu, coudon, ça me coûte plus cher d'actes du pharmacien que pour la pilule, par exemple.
Oui. Par exemple, l'aspirine, par exemple, le Synthroid qui est donné à... Et en Ontario, ils ont l'obligation de donner la prescription aux 3 mois pour diminuer, parce que de mettre 90 pilules dans la petite bouteille ou d'en mettre 30, c'est le même travail.
Voilà.
À peu de choses près le même temps. Donc, ils ont donné l'autorisation et même l'obligation de donner ce genre de médicament aux 3 mois, l'aspirine, à coût de sang, tu sais, parce que les gens peuvent l'avoir aussi facilement. Donc, il y a des choses aussi, comme je disais tantôt, qu'on peut prendre sur la tablette, puis on peut, par exemple, l'aspirine, tu la coupes en 4, puis ça t'en a pour l'année avec 200 comprimés, 6 $, tu sais. Ça fait que c'est toutes des choses qu'on peut faire, mais que les gens disent « Ah non, c'est pas grave, j'ai des assurances. » C'est gratuit, c'est par l'assurance. Et quand vous avez parlé de gratuité, 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 c'est pas gratuit. En Suisse, ça coûte 500 $ par mois d'assurance. Et vous avez des co-assurances quand vous allez voir le docteur, vous avez des co-assurances quand vous avez des médicaments. Donc, le régime universel, je pense pas que ce soit une république de bananes, la Suisse. Et en France, actuellement, ils sont en train de réduire les médicaments couverts. Donc, on ne pourra pas aller de façon exponentielle à l'utilisation des médicaments. Et quand on parle de molécules pas chères, ça, c'est accessible, mais les molécules très chères pour lesquelles c'est le seul médicament qui existe, ben là, l'INES nous dit non, on ne l'accepte pas, mesure d'exception, etc., etc. Donc, c'est l'approbation des nouveaux médicaments, prouver qu'ils sont supérieurs à ceux qui existent, etc., mais c'est pas toujours fait. Et là, on voit les batailles personnelles qui sont aussi de l'avant. Ça fait que cette bataille-là ne cessera pas, que ce soit avec l'universalité ou que ce soit avec les assureurs privés.
Et peut-être que c'est un faux débat, je ne sais pas, là, je lance la question, Dr Laberge, Jacques Létourneau de la CSN. Est-ce que vraiment l'important, c'est de dire on va avoir une mutuelle, un grand régime qui fait que c'est universel et à la base gratuit quand on va à la pharmacie, tout le monde est couvert, il n'y a pas de question de savoir ce que tu es assuré par ton assurance ou pas, par ton assurance de travail? Parce que les jeunes, je peux vous dire, les jeunes étudiants, ils appréhendent le moment où ils vont terminer leur bac pour dire je vois ma fille, on en parlait encore hier, elle dit maman, qu'est-ce que je vais faire? Je dis regarde, on va te payer une assurance, tu te payeras une assurance privée, tu n'auras pas le choix, à moins que ton employeur. Mais les jeunes ne sont pas tous dans la notion de dire je vais me trouver un employeur, parce que cette notion-là. Ils sont tous pigistes ou ils ont une vision haute du marché du travail. Donc, ils voient ça arriver puis ils se disent moi, je vais avoir 25 ans à la fin de mon bac, puis je vais-tu être obligé de payer mes médicaments? Donc, j'ai expliqué le régime public qui paye 70 % environ, 67 % 68 % environ. Mais si tu es à l'hôpital, tu n'as pas ta chambre privée ou tu n'as pas ta chambre semi-privée, il faut que tu la payes de ta poche. T'sais. Alors, oui, on a... Là, vous parlez que des médicaments dans votre offre. Là, vous parlez même pas d'une couverture hospitalière. Il y a bien des gens qui appréhendent de se ramasser dans le corridor.
Non, mais il y a des régimes privés qui vous couvrent l'hospitalisation en chambre privée.
Ouais.
Nous, on est vraiment sur le continuum dans une perspective de santé, c'est-à-dire médecin, hôpital, prise de médicaments.
Pharmaciens, ils se laissent pas faire.
Mais non, c'est sûr que les pharmaciens se laissent pas faire. Puis on s'aperçoit d'ailleurs que si ça coûte cher ici au Québec, je fouillais encore plus le dossier un matin sur comment ça se négocie avec les compagnies pharmaceutiques. C'est qui détient le pouvoir, mais les coûts de délivrance par les pharmacies au Québec sont de 375 $, beaucoup plus élevés que dans le reste du Canada.
On va revenir là-dessus après la pause, mais puisque le Dr Laberge doit nous quitter, retourner à ses patients, je vais quand même revenir sur l'élément important, puis je vais le dire pour Jacques Létourneau, parce que c'était son argument à la CSN puis la FTQ, c'est de dire au Québec, de plus en plus de gens ne prennent pas leurs médicaments pour des raisons financières. Ça a l'air que c'est quasiment 10 % du monde là, qui ne prennent pas leurs médicaments parce qu'ils n'ont pas les moyens. Je veux savoir, Dr Laberge, de votre expérience de médecin, est-ce que c'est vrai?
Bien, ça dépend de la clientèle, mais de façon générale, hein, un dans l'autre, 30 % des gens ne prennent pas leurs médicaments comme ils doivent les prendre, au moins. Donc, 10% de plus, 10% dedans, 10% occasionnellement, c'est 30% des gens qui ne prennent pas leurs médicaments, même les médicaments de très importants, le diabète, hypertension, maladie cardiaque.
Pourquoi? Donc, c'est pourquoi? À peu près ça. 30%?
Ils oublient, ils ne trouvent pas ça important, je ne suis pas vraiment malade, pour toutes sortes de raisons. J'ai oublié de la pharmacie, oh, je ne suis pas si pire que ça, ma pression, elle va bien. Là. Tu, je la prends pas, là, mais je me sens bien. Tu sais. Et des situations comme ça. Donc, oui, il y a des gens qui ne la prennent pas pour des mesures financières, mais oui, il y a 30% de la population qui ne prennent pas leurs médicaments régulièrement et correctement.
Donc, on dirait dans ce 30%, il y a 10%, vous êtes d'accord avec ça, qui n'ont plus, pas les moyens, puis 20% qui gaspillent.
Ben, qui gaspillent. Puis l'autre chose, c'est aussi, des fois, on va arriver, on se dit, bon, ah, ton médicament ne fonctionne pas, mais le patient ne nous dit pas. Fait que là, on va changer le médicament, on va augmenter la dose, et finalement, on va avoir des effets secondaires parce qu'il ne nous a pas dit qu'il ne prenait pas. Puis là, aujourd'hui, il est motivé à le reprendre, puis il recommence à une dose trop forte. Donc, on peut avoir aussi des incidents. Et l'autre chose, c'est qu'avec les assureurs privés, incluant les assureurs médicaments, tu as souvent un paquet de services, comme par exemple la physiothérapie, comme par exemple la psychothérapie, quelques séances, et ça, ça fait partie aussi du prix de ton assurance. Ça, c'est pas couvert actuellement par personne. Le gouvernement couvre pas ça, à moins que ce soit dans les hôpitaux. Donc, ça aussi, c'est l'autre problème de la grande couverture, l'éventail de couverture.
Voilà.
Donc, est-ce qu'on va diviser pour avoir une assurance privée? Je le sais pas. À suivre.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Christiane Laberge, docteur Laberge et médecin de famille. On s'arrête ici. On reste en compagnie du président de la CSN, Jacques Létourneau. Moi, j'ai hâte de savoir, vous, là. Moi, je trouve ça beaucoup, ce qu'elle vient de nous dire, docteur Laberge. 30% des gens qui prennent pas leurs médicaments de façon régulière. 10% environ, là, qui ne les prennent pas pour des raisons financières. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi, j'ai pas d'assurance. Ou le 67% de remboursement du gouvernement, ben, j'ai pas les moyens de payer l'autre bout, là, le tiers du prix du médicament, je l'ai pas. Tu sais, les plus jeunes, les personnes âgées, les gens qui ne travaillent pas, qui sont en précarité d'emploi, ça fait quand même pas mal de monde au Québec là, qui ne peuvent pas se payer leurs médicaments, sans parler des nouvelles règles qui deviennent, finalement, on les apprend sur le tas en se présentant à la pharmacie. « Ah non, vous n'êtes plus couvert pour ce médicament. » Dites-moi comment vous avez expérimenté ça, vous, avec votre assureur, si vous en avez un. Et est-ce que vous êtes pour un régime universel tel que décrit par les deux centrales syndicales les plus importantes au Québec? 514-790-9850. Et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Bonjour Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'assurance médicaments? En avez-vous une, vous, qui est privée ou vous avez l'assurance publique?
J'ai une assurance privée.
Oui.
Oui, je travaille sur la construction, c'est la Medic.
Oui.
Puis la problématique majeure qu'on a, là, c'est que le gouvernement s'est voté pour la RAMQ, il a fait une loi en plafonnant les tarifs des pharmaciens à 9 $ par prescription. Mais quand on arrive dans un système privé, la problématique, c'est que sky is the limit, ils peuvent facturer qu'est-ce qu'ils veulent. En résumé, on dirait que le gouvernement, il a fait sa loi en échange de... T'sais, il fallait que les pharmaciens fassent leur profit. Alors, il n'y a aucun encadrement pour les assurances privées. Fait que, ils peuvent facturer le montant qu'ils veulent dans les pharmacies. Puis quand vous faites la comparaison d'une pharmacie à l'autre, vous voyez la différence.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu des études là-dessus. Je pense que Jacques Létourneau de la CSN peut en reparler, mais il y a effectivement eu... D'ailleurs, merci Jean-Pierre de votre appel. On a vu qu'il y avait parfois, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une pharmacie à l'autre,
absolument,
des écarts de prix... Qu'on s'explique pas.
Bien, qu'on s'explique par les coûts de délivrance, oui. Et même s'il y a des tentatives de réglementation, le monsieur qui vient de parler a tout à fait raison. Là, on s'est assuré que le système public allait pas exploser, alors que c'est clair que dans le privé, bien, il y a un intérêt objectivement. Vous payez une pièce de médicament, ça rapporte à quelqu'un. Hein, fait que si on vous en charge 4 fois le prix, bien, ça rapporte 4 fois le prix dans la poche d'un pharmacien ou d'une compagnie pharmaceutique. Donc, quand on parle d'universalité et d'équité, on parle exactement de ça.
Mm-hmm. On a Louise avec nous. Bonjour Louise, êtes-vous satisfaite de votre assurance médicaments?
Oui, bonjour. Moi, pas du tout, en fait.
Ouais.
Je suis avec le gouvernement, parce que j'ai pas de job qui me donne une assurance privée.
Ben oui, il y en a de moins en moins qui donnent, d'ailleurs.
Hein? Puis je dois prendre des médicaments tous les mois avec une condition de santé mentale. Puis ça m'est déjà arrivé de pas avoir les moyens de payer mes médicaments, même si c'est pas cher, même si... le gouvernement en paye une partie, donc là, il faut que j'attende d'avoir l'argent, puis c'est ça. Puis l'autre point, c'est que justement, avec ma condition, j'ai un TPL, trouble de personnalité limite,
ouais.
Puis le gouvernement ne couvre pas non plus les soins psychologiques, ouais, que j'aurais besoin. Donc là, les médicaments sont couverts en partie, mais la psychothérapie, c'est pas couvert. Puis c'est ce qui me permettrait de travailler plus régulièrement. Donc là, en tout cas, ouais, pour moi, ça a des coûts pour la société parce que des fois, je m'absente de mon emploi ou j'ai des hospitalisations, des choses comme ça. Si j'avais accès à une psychothérapie adaptée qui pourrait être offerte, là, parce que moi, j'ai pas les moyens de me payer ça à toutes les semaines, ça pourrait éviter beaucoup de coûts. Peut-être que mes médicaments, j'en aurais besoin moins longtemps.
Moins longtemps, exactement. Ben oui, tout à fait. Puis c'est très pertinent ce que dit Louise.
Absolument.
Vous êtes un peu intéressé à ça aussi, Jacques?
Ah ben, écoutez, ça a été probablement le premier signal d'alarme quand le rapport du vérificateur général est tombé et qu'on, ouais, a démontré effectivement qu'il y avait une augmentation du nombre de patients, de patientes qui ne prenaient pas leurs médicaments. Tantôt, le chiffre de 30 % là, de la médecin, c'était assez énorme.
Ça vous
énorme,
a frappé, ça? Hein?
Oui, ça m'a jeté par terre. Bon, c'est peut-être pas 30 % qui les prennent pas parce qu'ils ont pas d'argent, mais en tout cas, ça conforte le chiffre de 9-10%.
Non, d'ailleurs, Dr. Laberge l'a bien dit. Il y a peut-être 10%, selon vos études, c'est 10%, 9-10%. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais il y aurait peut-être un 20%. Ça fait quand même une personne sur cinq qui ne prend pas son médicament parce qu'il est un peu léger par rapport à son médicament.
Ça,
je n'ai pas de misère à le croire.
Alors ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième, ben, c'est celui de l'augmentation faramineuse des coûts d'assurance dans les régimes privés comme l'intervenant précédent l'a dit dans la construction.
Mais vous, justement, là, juste pour clarifier votre erreur, j'essaie de comprendre ça serait quoi la différence avec ce qu'on a en ce moment, c'est qu'il n'y aurait plus de régime privé du tout, puisque l'employeur paye, ça serait payé, ça serait versé au gouvernement. Comment, dans les faits, là, en pratique, là, on essaie de comprendre.
Actuellement,
c'est quoi la différence entre le régime actuel et votre proposition? Rappelez-nous ça.
Ouais, c'est-à-dire que la proposition actuelle, ce qui existe, c'est le hybride, là, le public pour ceux qui n'ont pas de régime privé, le privé pour ceux qui sont privés. Dans les régimes privés, on n'appelle pas ça assurance médicaments, on appelle ça assurance maladie. Et là-dedans, tu vas avoir des massothérapeutes, les lunettes,
selon
le
ton
dentiste,
assurance.
Selon ton assurance.
Il y en a qui payent 70%, 80% des médicaments. Il y en a qui payent 100%.
Il y a des gens qui ont vérifié et dans cette enveloppe-là, les médicaments, ça représente entre 75 et 85 % des coûts de lobo. Donc, ton assurance pour le massothérapeute disparaîtra pas là, en entreprise ou pour les lunettes, mais c'est de sortir la portion médicaments du régime privé et de la mettre dans une mutuelle où là, les employeurs, ce qui cotisent déjà là, dans ton régime privé, ben, ils vont le cotiser dans dans la mutuelle publique. Ce que toi, tu cotises comme travailleur ou travailleuse, tu vas le cotiser dans le régime public. Donc, un régime public où là, l'accès va être universel, en toute équité, puis au même coût. Après ça, ben, c'est la fiscalité.
Au même
là,
coût, c'est ce bout-là, j'ai de la misère à croire ça. C'est surtout la notion de dire gratuit. Je veux dire, les CPE, c'est payant. On finit par toujours nous demander un petit quelque chose. D'ailleurs, l'assurance médicaments, là, on l'a enlevé, la prime, mais pendant quelques années, on s'en souvient, ça coûtait 400$, ça dépendait. Alors, je suis pas sûr que les Québécois, la fameuse taxe santé, là, mais qui était une prime d'assurance médicaments, qui était directement dans notre rapport d'impôt, parce que j'ai entendu ça tout à l'heure de vous, là, vous avez dit, peut-être par mesure de fiscalité, on pourra arranger quelque chose. On a arrangé quelque chose déjà, puis on l'a enlevé, là, parce que les Québécois, ils n'aimaient pas ça, payer ça.
Ben moi, nous, ce qu'on dit, puis c'était l'intervention publique qu'on a encore faite cette semaine, c'est allons de l'avant avec cette idée-là d'un régime universel. À partir des lacunes et des écueils qu'on connaît actuellement, après ça, on s'assoira. On avait déjà proposé à la CSN puis à la FTQ aussi de mettre en place un comité pour justement mesurer puis bien apprécier comment tout ça va se financer. Mais une chose qui est certaine, c'est un peu comme avec les régimes de retraite. Il y a eu ce débat-là récemment, hein? Régime de retraite public, rigidité, rente, régime privé, régime complémentaire. Nous, on avait tendance à dire, il faut y aller vers des régimes universels publics, mais c'est un peu la même chose.
Mais bonjour la négo, c'est des gros lobbies, là, parce que ceux qui ont le gros bout du bâton, là, puis qui s'en foutent comme de l'an 40 dans notre discussion actuelle, c'est les pharmaceutiques.
Absolument, les compagnies.
Comme disent les Anglais, they're laughing all the way to the bank. Là. Ça rit en se tapant la cuisse jusqu'à la banque parce qu'ils font de plus en plus de cash.
C'est démontré qu'en 97, quand on a mis en place le régime actuel, c'est le lobby des pharmaceutiques
complètement.
Et des quelques entreprises de pharmacie qui ont convaincu le pouvoir politique de ne pas aller de l'avant avec ça. Mais même un gars comme Jean Rochon, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui a mis le régime hybride en place, 30 ans après, il convient que ça serait le temps de mettre en place quelque chose annonce
depuis. Mais qui a une meilleure gestion des coûts? C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut vraiment se battre là, au niveau de la CSN, de la FTQ? Je vous lance ça de même. Est-ce que votre intérêt, c'est de vous battre sur ce régime universel qui va être compliqué à négocier, que ce qui risque peut-être d'augmenter les coûts à terme, ou c'est pas de renégocier des ententes qui soient plus importantes en termes de des vraies ententes qui baissent le coût des médicaments? Comment ça se fait qu'au Québec, on paye les plus chers nos médicaments? Comment ça se fait?
C'est
pourquoi qu'on fait pas des économies d'échelle? Pourquoi on n'impose pas certains tarifs en se basant sur ce que les autres payent ailleurs? Pourquoi nous autres, on paye toujours plus cher?
Bien, ce que les études tentent à démontrer, c'est que quand tu es dans un système mix à multi-payeurs... Parce
c'est là où ça coûte plus cher? Payent,
c'est là que ça devient plus compliqué, avec des coûts administratifs et ton pouvoir de négociation il est plus altéré. Alors que nous, on fait le pari que si tu avais une mutuelle, ben, tu négocierais directement avec les compagnies pharmaceutiques. Mais bon, évidemment, il n'y a jamais rien de simple quand tu parles de négociation, là. Tu sais, quand on fait de l'action syndicale, on négocie un contrat de travail. Ouais. On sait bien que ça tire et puis il y a des intérêts qui se...
On a Hélène avec nous. Hélène, êtes-vous toujours là? Vous n'êtes plus là? Bon, Hélène est partie. Elle est allée prendre sa pilule, sans doute. C'est intéressant parce que, sincèrement, on est tous insatisfaits par rapport à l'assurance médicaments, qu'elle soit privée ou publique. Moi, je penche l'exemple à SAQ tout à l'heure en tête parce que je me dis, on a un gros monopole qui se posait négocier des bons tarifs de vin. Puis, il me semble que quand on s'achète une bouteille de vin, ça nous frappe pas à quel point elle est pas chère. Alors qu'on devrait avoir cette capacité de négocier des tarifs incroyables. Fait que je me dis, si c'est pareil pour les médicaments, moi, il faudrait me faire la démonstration qu'on serait capable au gouvernement d'aller négocier des tarifs beaucoup plus économiques que ce qu'on paye là. On devrait être capable de faire des économies d'échelle.
Absolument, absolument. Mais c'est le pari. Non, mais c'est le pari qui est fait. C'est-à-dire qu'on le démontre que dans la portion publique, il y a des coûts qui sont davantage contrôlés que dans les régimes privés. Alors, votre exemple du vin, là, si on pourrait en redébattre à un moment donné, mais dans le reste du Canada où on a déréglementé et privatisé, c'est pas vrai que le monde paye beaucoup moins cher leur vin en Alberta et en Colombie-Britannique. C'est pas vrai, ça. Puis tu as des produits au Québec qui sont vendus dans les SAQ à moindre coût que dans le reste du Canada.
À moindre coût que dans
absolument,
le reste du Canada.
Absolument, absolument. Je ne les ai pas sous les yeux. Là, c'est pas notre débat.
J'espère que c'est du vin québécois.
On va vous le sortir. On
ça,
va
c'est
vous
un
sortir.
Bon débat. C'est le fun de parler de vin.
On viendra là-dessus.
Merci beaucoup, Jacques Létourneau, président de la CSN. Donc, je rappelle que la CSN et la FTQ demandent aux partis politiques de se prononcer sur la création d'une véritable assurance médicaments publique et universelle pour tous les Québécois. La réponse des partis, c'est quoi?
Les partis, à notre connaissance, Québec solidaire a ça dans son programme. Les autres n'en parlent pas.
Les autres nini. Non, ils parlent pas de ça. Ils parlent d'autre chose. De quoi?
Ils parlent d'autres choses.
Autre sorte d'affaires.
Ben, peut-être de mesures, comme je le disais en introduction, qui sont davantage micro que des mesures qui auraient des conséquences plus directes sur le portefeuille des travailleuses et des travailleurs.
Merci beaucoup. On s'arrête ici. On va recevoir notre chroniqueur techno du 98.5 tout de suite après la pause. Mathieu Roy va vous dire quels sont ces gadgets techno que vous devez absolument avoir cet automne. À tout de suite, tout le monde.